Bonsoir à tous, c'est Jeudi Noir ce soir avec José, Sophie, Michel et moi-même. Vous venez d'entendre La Bombe et moi de Parabellum. Une petite indication sur l'émission de ce soir, vous n'entendrez que du Parabellum ce soir, en hommage à Schultz qui est mort il y a peu de temps. Donc voilà, c'était La Bombe et moi pour ce titre d'ouverture. Et ce soir, on va vous parler d'un livre, comme d'habitude, livre de Bertrand Russell, qui s'appelle « Le pacifisme et la révolution ».
Donc, qui a un rapport avec la bombe et moi.
Qui a un rapport avec la bombe et moi, vous l'aurez noté. Alors, c'est un livre qui est paru cette année, aux éditions Agone, et qui est un recueil de textes politiques de Bertrand Russell, qui n'est pas forcément très connu pour sa pensée politique. Le pacifisme et la révolution, donc c'est un recueil de textes que Russell a écrit entre 1914 et 1918, c'est-à-dire donc pendant la Première Guerre mondiale. Alors ça a motivé assez probablement la parution de ces textes et leur traduction, hein, puisque la plupart sont, enfin même là, ils sont tous inédits en français. Et donc évidemment cette année de centenaire autour de la Première Guerre mondiale est aussi fait partie du contexte dans lequel sortent ces textes, mais comme Michel va nous l'expliquer ce soir, le contenu de ces textes et puis l'espèce de pensée politique de Bertrand Russell qui s'en dégage dépasse largement le contexte dans lequel ils ont été écrits. Alors, ce contexte, tu vas nous en dire un mot, hein, c'est le contexte effectivement de l'engagement pacifiste de Russell et le fait qu'il se soit, dès le début de la guerre, et ce jusqu'à la fin, affirmé contre le conflit et pour une position pacifiste radicale et conséquente. Et donc, à la lumière de ces textes-là, émerge quelque chose comme une espèce de pensée politique, alors bon, tu vas nous en dire plus, avec laquelle on n'est pas forcément familière, hein, puisqu'en France, ce qu'on connaît surtout, ce sont soit les textes très techniques de Russell en philosophie des mathématiques ou philosophie de la logique, ça c'est pour les initiés et puis ceux pour les spécialistes, des textes qui ne sont pas forcément faciles d'accès, et puis aussi sinon toute une série de pamphlets qui sont traduits en français, pas toujours très bien d'ailleurs depuis longtemps, et qui porte plutôt sur des questions morales, sa critique du mariage, sa critique du christianisme, ce type de texte, sans qu'on puisse vraiment avoir une vue d'ensemble, finalement, sur ce qui donne la cohérence des positions de Russell. Et c'est l'occasion, à partir de ces textes sur le pacifisme et le socialisme et la révolution, de comprendre un petit peu quelles étaient les positions de Russell en termes de politique, et donc il nous a paru intéressant d'en parler avec vous ce soir. Donc Michel, est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus du coup sur le type de livre qu'on a entre les mains là
faire, alors que tu as tué tout mon effet que j'avais longuement préparé depuis environ deux semaines. avec un machiavélisme retors. Moi je voulais lire aux auditeurs un petit passage qui est cité en quatrième de couverture à mon avis à raison. Et je vais le faire pour donner un aperçu de l'esprit du bouquin et de la pensée de Russell aux auditeurs. Donc voilà, je lis Russell. Mon projet, qui, chacun en conviendra, est considérablement plus économique et plus humain que la présente manière de conduire la guerre, est le suivant. Que les grandes puissances de l'Europe s'accordent pour que les garçons, sitôt atteints l'âge de 18 ans, soient répartis par tirage au sort en trois classes. La première incluant la moitié d'entre eux, les deux autres un quart chacune. La classe incluant une moitié sera exécutée sans douleur dans une salle d'exécution. Quant aux deux autres classes, les garçons de la première seront privés d'un bras, d'une jambe ou d'un œil à la discrétion du chirurgien. Ceux de la seconde seront exposés jour et nuit à des bruits assourdissants jusqu'à être affligés d'une détresse nerveuse, folie, aphasie, cécité mentale ou surdité. Après quoi, ils seront libérés pour former l'humanité future de leur pays. Monsieur, au nom de la science et de l'économie, mais plus encore au nom de l'humanité, j'en appelle au gouvernement afin qu'il soumette sur le champ ses modalités à tous les belligérants et épargne une masse immense de souffrances évitables causées par nos méthodes d'exécution trop peu scientifiques.
Lettre au Times, 20 avril 1916.
Voilà. Alors, qu'il n'avait pas signé, mais qu'on a attribué à Russell par la suite. Voilà, bon, c'est du Russell. Ça pourrait être du Voltaire, ça pourrait être du Swift.
Et il y a des gens qui prennent ça littéralement.
Oui, je suis tombé sur un site où des gens prenaient ça littéralement. Mais bon, on ne peut rien faire pour les imbéciles. Donc, ici, il y a des choses qui sont hors... on peut rien faire, c'est tout.
C'est pas notre compétence.
Voilà, c'est qu'un texte très très ironique, évidemment, qui vire à l'humour noir. Ensuite, il me semble que l'intérêt que présente ce recueil de textes est assez grand, mais on pourrait le schématiquement le diviser en deux. et d'une part un intérêt assez qu'on pourrait dire presque biographique.
Sur l'évolution de Russell lui-même.
Sur l'évolution de Russell lui-même, qui passe finalement d'un libéralisme que, comment dire, qu'il hérite et qu'il assume. Puisque son grand-père avait été deux fois Premier ministre, que son frère est membre de la Chambre des Lords, et que Russell lui-même a collaboré à une certaine forme de libéralisme, qu'il faut préciser, parce qu'ici en France, libéralisme, ça signifie capitalisme. Pour Russell, c'est plutôt du côté de la défense des droits de l'individu.
Et de la liberté.
Et de la liberté, mais justement de la liberté individuelle. Et donc on y reviendra, parce que du fait de son libéralisme ultra conséquent, il va en venir à critiquer le capitalisme. Mais bon, ça ce sera pour plus tard. Donc, mais il va passer du libéralisme au socialisme. Alors là aussi, il faut préciser le sens du mot socialisme. Ça n'a évidemment rien à voir avec Manuel Valls. Mais ça, je pense que nos auditeurs s'en doutent.
C'est l'inverse, c'est Manuel Valls qui n'a pas grand-chose à voir avec le socialisme.
C'est vrai. Parce qu'il ne faut pas oublier que Bakounine, dans pas mal de textes, dit socialiste. Même si Russell ne peut pas être qualifié d'anarchiste pour plein de raisons. Bon, à l'époque de Russell, socialisme, c'était un terme qui avait encore du sens. Donc, bon, aujourd'hui, c'est délicat de définir ça. Mais bon, peu importe. Et donc, il va passer du libéralisme tel qu'on l'a brièvement défini au socialisme tel qu'on l'a aussi brièvement défini. Et ce passage va s'effectuer du fait de son militantisme contre la Grande Guerre et du fait de sa réflexion sur le pacifisme et sur la nécessité de la paix, ou du moins d'éviter des guerres totalement absurdes, comme la Première Guerre mondiale. Donc ça, c'est le premier point qui me semblait intéressant.
Avec l'élément biographique, ce que tu disais à l'instant, qui est quand même assez étonnant, c'est que Russell fait partie de l'élite, entre guillemets, aristocratique anglaise. Hein. C'est vraiment une des plus grandes familles aristocratiques anglaises. Mmh. Donc tu as dit, voilà, grand-père deux fois.
Deux fois Premier ministre, oui.
Deux fois Premier ministre, c'est pas rien. Le frère politicien lui-même, on est vraiment sur le gratin.
Hein, et puis lui-même est professeur à Cambridge. Voilà. Il est lié à Keynes, donc le grand économiste, et il connaît toutes. Quasiment tout le personnel politique anglais. Il croise régulièrement le Premier ministre, des premiers ministres dans les salons dans lesquels il va. Bref, il fait partie de l'élite anglaise.
Il a pas renié son appartenance à l'élite.
Alors, on va voir, parce qu'il s'est mis quand même vraiment en porte-à-faux avec eux.
Oui, c'est ça, c'est ce qui rend complètement improbable l'évolution que tu viens de mentionner.
Exactement.
Là. C'est-à-dire, bon, déjà, l'engagement pacifiste au départ, tu vas nous en dire un peu plus, mais effectivement, hautement improbable, puisque la plupart des membres de sa classe sociale sont, eux, effectivement, des patriotes plus ou moins fervents. Donc déjà, effectivement, on a quelque chose d'étonnant. Et le basculement dans une forme de socialisme assez radical, quand même, est lui aussi assez surprenant de la part de quelqu'un issu de ce milieu social-là, même si, effectivement, il va rester fidèle, pour une part, à la culture politique de son milieu, qui est celle d'un libéralisme, mais qu'il va radicaliser à un point tel que du coup, ça n'a plus grand-chose à voir avec ce qui se pratique du point de vue des gouvernements libéraux de l'époque, qui déclarent la guerre au passage. Hein.
Et avec lesquels, justement, Russell va rompre définitivement à partir du moment où ils ont déclaré la guerre, sachant que les libéraux officiels sont au pouvoir en Angleterre à partir de 1906, je crois, que c'est eux qui déclarent la guerre en 14. Et Russell, il voit là une trahison totale du libéralisme que lui défend. Mais bon, on y viendra après. Et après, d'un point de vue... Donc ça, c'était des points de vue un peu biographiques, qui, à mon avis, rend quand même le bouquin intéressant. Parce que bon, Russell, c'est un personnage... c'est un personnage de roman, hein, d'état de niveau. C'est assez intéressant si vous aimez vous pencher sur les personnalités de ces gens-là. Et donc, ensuite, d'un point de vue qui serait peut-être plus, on pourrait dire, en termes de théorie politique, y a un truc très simple à dire, c'est que ce livre est une mine d'arguments contre le nationalisme, contre la guerre, mais aussi contre l'État et contre le capitalisme. Je pense que même si Russell n'est pas anarchiste, j'insiste dessus, on y reviendra, je pense que ce livre présente beaucoup d'intérêt.
Il est pas loin.
Il est pas loin, il est très très proche.
Contre l'État, mais pas contre l'existence de l'État.
Il est contre une certaine forme d'organisation de l'État. Il n'est pas contre le principe même de l'État. Mmh. C'est ce qui fait qu'il n'est pas anarchiste. Mmh. Mais en même temps, l'État tel qu'il existe à son époque lui semble être une source d'oppression absolument incommensurable.
Il propose de faire quelque chose, quoi.
Ah oui. Oui, il a fait des conférences, il a un programme politique.
D'accord.
Il s'est rallié à des tendances politiques de son époque assez précises. Mm-hmm. C'est pas simplement une espèce de point de vue complètement intellectuel et détaché de la réalité politique de son époque, même si, par certains côtés, on pourrait le dire, on pourrait dire ça. Donc voilà. Et alors on y trouve aussi des analyses, à mon avis, assez intéressantes des institutions politiques et de la manière, bah justement c'est ce que disait Sophie, dont on pourrait rendre notre monde plus vivable pour la majorité. Et c'est des analyses qui sont souvent fondées sur la psychologie à laquelle il avait, la psychologie telle qu'elle était développée à son époque, et qui est fondée aussi sur pas mal de, sur une analyse de pulsions qui sont plus ou moins conscientes. Donc c'est pas non plus, comme on aurait parfois tendance à le penser en France, un rationaliste froid qui nie l'existence des émotions, des sentiments et qui ne leur accorde aucune importance.
Parce qu'au contraire, c'est un rationaliste quand même.
Ah oui, oui, oui. Enfin, pas froid. Bon, on pourra en discuter, mais il est pas froid. C'est un rationaliste chaud. Il a eu 5 femmes.
C'est mieux.
et il en a trompé je sais pas combien, donc il était chaud et infidèle. donc bon. Bah par contre, il posait quand même l'idée, enfin vers la fin de sa vie, il pose quand même l'idée que la raison fixe les moyens, mais pas les buts, que les buts sont fixés par les émotions. Donc bon, c'est du point de vue des rationalistes, ça pourrait être une légère hérésie, ça se discute. Donc voilà pour une présentation un petit peu générale. Alors ensuite, José, est-ce que tu peux passer de la musique?
Parabellum.
Parabellum.
C'est compliqué à comprendre la troisième partie. Je peux parler fort en face du micro juste pour voir.
Bla 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 bla.
Je suis bien sur le jaune ? Je suis bien sur le jaune.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, à la voix sans du ni maître ni publicité.
Et c'est jeudi soir, comme tous les
jeudis noirs.
Jeudi noir, oui. comme tous les deuxièmes et quatrièmes jeudis du mois, avec Sophie, José, Michel et moi-même. Et on vous parle donc toujours de ce livre de Bertrand Russell, intitulé « Le pacifisme et la révolution », qui est un recueil de textes écrits par Russell entre 1914 et 1918, et qui porte donc, comme le titre l'indique, sur l'engagement pacifiste de Russell et sur sa pensée politique. Alors on vous a parlé rapidement de l'intérêt biographique des textes concernant la trajectoire de Russell, et puis cette dimension assez romanesque finalement de la vie de Russell, un peu en rupture par rapport au milieu d'origine très chic, d'où il est issu, et qu'il conduit à prendre des positions complètement en décalage par rapport aux traditions politiques et morales et culturelles de son milieu. Alors peut-être que tu peux nous en dire un peu plus, Michel, là, du coup, de la manière dont finalement ces textes s'inscrivent dans un engagement pratique et militant tout au long du conflit en Angleterre, pour montrer que voilà, c'est pas simplement des prises de position théoriques, on en parlera évidemment, mais qu'il y a aussi de sa part un engagement très, très concret auprès des pacifistes et de ceux qui luttent contre l'engagement de la Grande-Bretagne dans la guerre de 14. Alors comment ça se manifeste chez lui, cet
engagement ? De façon assez surprenante, parce que bon, en 14, Russell a 42 ans, il est trop vieux pour être envoyé, pour pouvoir s'engager à ce moment-là, ou pour pouvoir être obligé d'y aller. Et jusqu'ici, il s'est occupé essentiellement de logique et de philosophie des mathématiques, à un niveau assez impressionnant, puisque accessoirement, il participe à une révolution totale de la logique de son époque, c'est-à-dire qu'il fait partie de ceux qui vont complètement casser la logique aristotélicienne pour passer à une logique formelle, moderne, avec Frege et Whitehead. Donc, bon, a priori, c'est quelqu'un qui est perdu dans cette espèce de... on pourrait dire que c'est une double rupture aussi, cet engagement politique. Une rupture avec son milieu social, mais aussi une rupture avec ses engagements intellectuels précédents, qui a été largement théorique, ultra-théorique. Il n'y a pas grand monde qui a lu et compris les Principia Mathematica qu'il a écrit avec Whitehead, par exemple.
Mais la manière dont il va s'engager en politique reprend quand même un certain nombre.
Et en même temps, il y a une cohérence, parce qu'effectivement, comme tu le dis, on va voir que malgré tout, la pratique de la logique et des mathématiques a peut-être participé, alors ça c'est compliqué de démêler les effets et les causes, mais a peut-être participé à le rendre totalement insensible à la propagande nationaliste de guerre. Mais ça, on va le voir bientôt. Donc jusqu'en 14... il s'occupe essentiellement donc de sa logique et de ses maths. Et mais dès que la guerre éclate, il s'y oppose de manière totalement radicale. Il écrit un article pour déclarer à quel point il est opposé. Et là, il se retrouve là où, en fait, le journal où il comptait publier l'article tourne Kazakh et lui dit non, on veut pas le publier. Nous, on est pour la guerre.
Alors, je fais juste une petite parenthèse là-dessus pour qu'on mesure quand même ce que ça signifie, cet engagement-là. Tu dis, c'est dès le début de la guerre, il s'y oppose. Et c'est ce que Rosard rappelle en introduction. Hein, de tous les philosophes de ce niveau-là à l'époque en Europe, c'est le seul.
Oui, des philosophes, parce qu'il y a des romanciers. Oui. Bon, il y a Romain Rolland, je crois, qui s'est opposé à la guerre. Il y a Alain, mais Alain s'est engagé. Bergson, lui, il écrit carrément des trucs pour dire que la France est du côté de la spiritualité, tandis que l'Allemagne est matérialiste, et que donc la guerre représente un engagement entre ces deux valeurs et qu'il faut impérativement que la France gagne. Cassirer, lui, fait de la propagande pour l'Allemagne.
Il travaille pour les Allemands. Ouais. Wittgenstein s'engage.
En fait, oui, des philosophes de premier plan. Effectivement, Russell est le seul à s'engager dès le départ contre la guerre. Un de mes auteurs préférés, Musil, s'engage aussi. Enfin bon, on pourrait en citer des tonnes.
Même
comme
des figures éminentes de l'anarchisme qui s'engagent en faveur de la guerre.
Ah oui, d'autres. Au même moment. Parce que je pensais à ceux de 1916, à Kropotkin. Mais bien en 14, en 14 ouais. La CGT à ce moment-là, elle est plus dominée par les anarchistes. La CGT s'engage aussi en faveur de la guerre, si mes souvenirs sont bons. Enfin, si mes souvenirs de lecture sont bons.
Toujours est-il, c'est suffisamment rare quand même pour être.
Pour être souligné, oui, tout à fait.
Ça, c'est...
Donc, et alors lui, bon, donc, c'est ce qu'il va faire, il va s'opposer au moyen. Alors, entre 1914 et 1916. Alors, il participe à une espèce de groupement informel qui rallie le leader travailliste de l'époque, quelques députés libéraux en rupture avec leur parti, mais ils sont 8. Et comme dit Russell à Lady Ottolin, qui est son amante de l'époque, nous étions comme des fourmis en train de parler de construire des pyramides. Donc bon, mais bon, il y a déjà cette espèce de groupe un peu élitiste de réflexion et de tentative d'action contre la guerre.
Mais pas dans la critique de l'État en général.
Non, non, pas du tout. À ce moment-là, il n'en est pas là. C'est, alors, il y a une critique de la politique menée par l'État. Mmh. C'est-à-dire, en particulier, il vise la diplomatie secrète, le fait qu'une décision aussi importante que la guerre, que la déclaration de guerre, puisse être prise finalement par une oligarchie sans demander son avis au peuple, etc. En même temps, ils sont coincés du fait de la ferveur populaire manifestée pour la guerre, qui va aussi beaucoup étonner Russell et l'affliger. Pas mal. Mais donc, entre 14 et 16, ça va être essentiellement des articles qu'il arrive à publier chez les travaillistes, pas plus chez les libéraux, puisqu'il a rompu avec eux et qu'eux ont déclaré la guerre. Et donc, bon, c'est essentiellement une activité intellectuelle de recherche, mais à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas du tout de théorie politique constituée. Il va réagir à partir de c'est des réflexes moraux et intellectuels
qui vont
face à la guerre qu'ils font réagir. Les choses changent un peu quand en mars 1916, il s'engage dans l'association contre la conscription. Il faut savoir qu'en Angleterre, jusqu'alors, jusqu'en mars 1916, il n'y avait pas d'armée permanente et vous n'étiez pas obligé de partir en guerre quand le pays déclarait la guerre.
Ce qui est un point important parce qu'effectivement, nous, dans le contexte français, ça paraît complètement, complètement décalé. Mais c'est vrai que c'est une donnée en Angleterre à l'époque.
C'est une donnée à prendre en compte, très importante, c'est que ne partez en guerre jusqu'en 1916 que ceux qui voulaient y aller, les engagés volontaires.
Ce qui est lié à ce qu'on appelle parfois la tradition aussi libérale, justement, anglaise. Hein, effectivement, l'individu a des droits. Voilà, il n'y a pas de primat, en quelque sorte, de l'intérêt national sur les droits de
l'individu. Sur la conscience individuelle. Voilà. C'est lié au conflit religieux des 17e, 18e siècles, enfin 16e, 17e plutôt.
L'individu n'appartient pas à l'État.
C'est ça. Et sa conscience prévaut sur certaines décisions prises par l'État. C'est-à-dire que si l'État déclare la guerre, ça ne veut pas dire que l'individu est obligé de partir en guerre. Mais vu comment la guerre tourne, l'État anglais tourne casaque et va voter pour la conscription qui sera de plus en plus étendue jusqu'en 18. Et donc,
Du coup, ça ne pose pas de problème aux citoyens?
Ben non, parce que...
Pour l'engagement.
Oui, la plupart des... Ben c'est comme en France, c'est comme en Allemagne. La plupart des peuples, à ce moment-là, sont complètement pris par... Alors, je sais pas, par la propagande, par le nationalisme. Non, pas complètement, mais massivement.
Ben ça passe, quoi.
Au moins en 14, en tout cas, en 14 c'est massif. Et,
C'est un glissement, c'est une grosse suppression de leur liberté individuelle quand même, et ça passe parce qu'ils sont convaincus qu'il faut aller en guerre.
Voilà. Ah, c'est compliqué, après il y a plein de débats d'historiens sur cette question-là, hein. Dans quelle mesure les gens ont été contraints d'aller à la boucherie, dans quelle mesure ils adhéraient, et tout ça, c'est toujours, là pour le coup c'est une question plus historique. Mais c'est vrai qu'en Angleterre, en tout cas, ça passe. Et c'est là-dessus qu'effectivement va se faire la bascule, hein, si j'ai bien compris, chez Russell, c'est-à-dire que c'est sur cette question de l'objection de conscience qui va en quelque sorte être amené à clarifier ses positions politiques et son rapport au libéralisme.
Aussi, oui, hein, tout à fait. Et donc, bon, donc il s'engage dans cette association contre la conscription, Russell, conscription qui vient d'être votée. Et en 1917, il va même se retrouver à être président par intérim de cette association, parce que tous les membres assez jeunes qu'il avait fondés sont en prison ou en France. Enfin bon, ils ont tous été... La répression est assez féroce. Bon, donc on les a envoyés casser des cailloux dans un coin de l'Angleterre. Il y a des débats à l'intérieur de l'association pour savoir si ils font un refus absolu ou un refus relatif. C'est-à-dire, est-ce qu'on refuse simplement de porter les armes ou est-ce qu'on refuse aussi de participer à toute action qui libérerait d'autres hommes pour partir à la guerre, ou qui contribuerait à l'effort de guerre. Donc il y a les absolutistes, et les autres, et ça fait de gros débats à l'intérieur de cette association. Donc,
c'est que t'as des pacifistes aussi qui y sont pour des raisons morales. Si
et religieuses.
Et religieuses, bien sûr. Donc effectivement, on est sur une espèce de truc un peu hybride, hein. C'est pas simplement une organisation politique.
Non.
Hein, ça regroupe effectivement tous ceux qui sont contre la guerre, pour des raisons, alors pour le coup, qui peuvent être diverses.
Voilà, et donc à ce moment-là, bon, Russell, il y a plusieurs choses. Bon, d'une part, il espère plus ou moins être arrêté, parce que vu sa position sociale à cette époque-là, entre 1916-1917, ça ne pourrait pas arriver sans faire beaucoup de vagues politiques.
Et il cherche le martyr, quoi.
Mais il n'obtient pas gain de cause.
Il ne cherche pas forcément le martyr. En fait, c'est une stratégie collective. C'est-à-dire que l'association, et Russell est d'accord avec elle, voit l'opportunité qu'il y aurait justement à faire de Russell une figure opprimée par l'État.
Il a raison.
Et Russell se dit qu'à ce moment-là, c'est intéressant pour sa cause d'aller en prison.
Mais ça marche pas.
Ça marche pas parce que le gouvernement n'est pas idiot et justement recule des quatre fers devant l'idée de mettre Russell en prison à ce moment-là. Ils veulent pas.
Parce qu'il vient de son milieu.
Il n'y a pas que ça, bah, c'est justement ils craignent les troubles politiques, mm-hmm. que ça pourrait, les vagues politiques que ça pourrait engendrer. Enfin bon, ça ne les arrange pas du tout à ce moment-là. Mais bon, comme il fait quand même un gros travail de propagande dans des meetings qui regroupent des ouvriers, des militants pour la paix, tout un tas de gens d'origine très très variée, il a complètement quitté d'une certaine manière le milieu dans lequel il était au début, puisqu'il s'adresse à des gens de toute origine, de tous milieux sociaux, bon, voilà. Il commence à devenir embêtant. Et donc, la répression qui s'était déjà abattue de façon assez féroce sur tous les objecteurs de conscience, il devait passer devant des conseils de révision qui leur disaient qu'ils n'étaient pas de vrais objecteurs de conscience parce qu'ils buvaient du thé ou des choses de ce genre-là. Oui, parce que le thé, ça vient des colonies, donc tu vois. Bon.
Logique.
Logique. ou qu'ils leur interdisaient de parler quand ils étaient religieux, parce que si eux disaient que Jésus était contre la guerre, alors que le conseil de révision venait de dire qu'il fallait partir en guerre pour le roi et pour Dieu et le roi, on leur disait de se taire. Enfin. Bon, il y avait des tas de choses assez arbitraires, assez humiliantes aussi, parce qu'on les envoyait parfois dans des camps faire des choses qui n'avaient strictement aucune utilité. Donc, à un moment, Russell dit, voilà, si le pays estime qu'un mathématicien brillant est plus utile à casser des cailloux qu'à poursuivre son travail, c'est quand même embêtant. Parce qu'il y a pas mal d'étudiants qui sont passés sous les fourches codines de ces conseils de révision. Donc bon, la répression s'est déjà abattue sur quasiment tous les militants.
Il y avait un droit d'objection de conscience, mais un droit de fait, et puis pas vraiment en pratique. Ouais.
Le droit de fait était maintenu même après 1916. Ouais. Simplement, le droit d'objection de conscience était maintenu. Simplement, dans les faits, il était souvent bafoué.
C'était juste impossible à appliquer.
C'était juste impossible. Il y a eu quelques milliers d'objecteurs de conscience. D'accord. Peut-être 15 000, je crois. Et il y en a pas mal qui sont morts à la suite de leur emprisonnement. Il y en a pas mal qui ont été maltraités aussi parce qu'ils ont été envoyés. Ils ont été mis sous les ordres de militaires. Et comme ils refusaient d'appliquer les ordres, on leur appliquait des sanctions extrêmement dures. Donc bon, les objecteurs de conscience ont pris très très cher. Russell, lui, était protégé par son statut. Malgré tout, petit à petit. Ils ont commencé à taper un petit peu dessus. D'abord, ils lui ont imposé une très lourde amende. Et il semble que malgré son origine sociale extrêmement élevée, Russell n'était pas fortuné.
Donc il ne l'a pas payé.
Donc, je crois que c'est à ce moment-là qu'ils ont saisi ses biens à Cambridge, sauf erreur de ma part. Parce qu'il refusait de la payer. Parce que son idée, c'était de refuser de payer l'amende pour pouvoir aller en prison. il y avait encore cette idée de...
Il n'avait pas lâché l'affaire.
Mais le gouvernement, justement, qui ne voulait pas l'envoyer en prison parce que c'était Russell, a saisi ses biens. Que les amis de Russell ont racheté en partie pour essayer d'éviter qu'il se retrouve sans rien. Ensuite, il a quand même été licencié de Cambridge. C'est-à-dire qu'il a perdu son gagne-pain, malgré tout, parce que...
Alors qu'il a été évidemment une des figures de proue.
Alors qu'il était une figure de proue de Cambridge, mais même de... Enfin bon, au niveau européen, c'était une des figures de proue de la philosophie. Voilà.
C'était si facile que ça, le licencier de Cambridge.
Il semble. En 1917, oui, c'était...
pas de problème.
C'était jouable. La date, elle est importante. Hein, 17, ouais. Il se passe des choses. Hein, ouais. Donc évidemment, on peut comprendre aussi le durcissement du gouvernement après la Révolution russe.
Surtout que Russell s'était montré favorable à la Révolution russe.
De février.
De février. Mais après, avant de rencontrer Lénine, il était aussi... plus ou moins favorable quand même à celle d'octobre.
Celle de février, en tout cas, il n'y a pas de souci. Et de l'avant-propos rappelle, hein, effectivement, il participe à des meetings en Angleterre où il y a des milliers de délégués qui votent effectivement l'établissement de Soviet en Grande-Bretagne après la révolution de février.
Et jusqu'en 21, il sera, on le voit dans les textes qui sont présentés d'ailleurs dans Bertrand Russell, le pacifisme et la révolution aux éditions Agone. Jusqu'en 21, il reste quand même plutôt bien disposé à l'égard de la révolution bolchevique. Bon, après 21, c'est autre chose, parce qu'il va visiter l'Union soviétique, il rencontre Lénine, il rencontre Trotsky, et il revient extrêmement déçu. Parce qu'il a l'impression que, justement, les libertés individuelles sont totalement foulées aux pieds, et il a l'impression d'avoir affaire à des théoriciens dogmatiques, limite des platoniciens, qui ont une idée de la cité parfaite et qui veulent l'imposer à toute force à la société russe.
On pourrait faire une émission à part entière sur...
sur théorie et pratique du bolchevisme, voilà, c'est un bouquin super.
Voilà. selon Russell, ça c'est...
C'est un très bon bouquin. Facebook. Hein, ouais, ouais. Je pense que les anarchistes peuvent apprécier aussi parce que.
Ah bah oui, ça c'est sûr.
C'est, oui, bon, il, je ne sais pas s'il est encore édité. Enfin, moi je l'avais lu dans une vieille édition, mais bon, je pense qu'il est trouvable si vous cherchez bien. Mais bon, le truc c'est qu'il est licencié de Cambridge et finalement, en 1918, il va arriver en prison.
Il a gagné.
Il a gagné, mais en fait non, il a perdu parce qu'en 1918, les pacifistes sont complètement isolés. Parce qu'il faut savoir aussi que Russell, par exemple, on lui a interdit d'aller dans les zones côtières du sud de l'Angleterre en l'accusant d'espionnage, alors qu'en réalité, on veut lui interdire d'aller faire des meetings auprès des ouvriers du sud. On lui a interdit d'aller aux États-Unis aussi, parce qu'on avait peur qu'il fasse de la propagande contre l'entrée en guerre des États-Unis. Bref, on l'a et puis les pacifistes ont été isolés par une propagande assez habile du gouvernement. À tel point qu'à un moment, Russell se retrouve dans une réunion pacifiste qui est envahie par des gens du peuple, par des jeunes soldats qui sont pas encore montés, qui sont pas encore allés au front, et que ça va être assez violent. Ils se font tabasser. Russell est sauvé par l'intervention d'une femme qui s'interpose entre lui et les autres. Bref, les pacifistes à ce moment-là se retrouvent complètement isolés.
Mais du coup, enfin, ils faisaient encore peur au gouvernement ou pas?
Non, mais je pense qu'il s'agissait de, en gros, d'écraser les dernières, comment dire, les dernières voies opposées à la guerre.
T'as quand même le paramètre révolution russe. Hein.
T'as paramètre révolution russe.
Ça,
tout à fait,
c'est pas propre à l'Angleterre, mais c'est un peu.
Sir Russell à ce moment-là rêvait d'unifier.
Il est pas le seul.
Le pacifisme
Et la révolution.
Et la révolution.
D'où le titre.
Il éprouvait quelques soucis d'ailleurs avec l'association dont il était président par intérim, l'association contre la conscription, puisque celle-ci, a priori, se disait apolitique. Et Russell, à ce moment-là, est tenté de démissionner parce qu'il se dit que le pacifisme ne suffit pas et qu'il faudrait aller plus loin. Parce que finalement, il s'aperçoit que, enfin bon, mais ça je vais le développer un peu après, qu'il n'est pas forcément contre la guerre par principe, enfin contre la violence par principe, même s'il déteste la violence. Et il pense finalement que le combat pacifiste est peut-être un peu limité.
C'est le moment de la remise en question de l'État, en fait ?
Oui, c'est ça, et du capitalisme. C'est-à-dire qu'il pense que si un pacifisme conséquent doit remettre en cause les fondements économiques et politiques d'une société qui produise la guerre.
Puis il voit le coup d'après aussi. Il me semble qu'il a aussi le souci constant de se demander, bon bah, une fois qu'on sera sorti de cette boucherie-là, quelle société on fait et quelles sont les leçons du coup de ce conflit-là,
de ce qui a
conduit à cette boucherie collective-là. Comment ça a été possible, effectivement, comment on en sort et comment on fait en sorte que ça ne se reproduise pas. Donc il a tout de suite, il a aussi cette perspective-là.
Tout à fait. Et ça, il l'a depuis le départ.
Et elle est politique, cette perspective.
Parce que oui, parce qu'un de ses soucis de départ sur la guerre, c'est « et après ». C'est-à-dire qu'il est convaincu que cette guerre ne peut absolument pas sauver la démocratie, la civilisation, ni rien, qu'elle va plutôt... Il est très inquiet, il pense plutôt que...
Ça va empirer les choses.
Ça va former toute une génération entière, finalement, à la règle de la force et de la violence. Et il se dit que c'est une catastrophe morale, politique et civilisationnelle. Il est par certains moments, alors on peut se demander si c'est politique ou si on est entièrement convaincu, il semble se demander si la civilisation européenne peut survivre à la Première Guerre mondiale. Alors comme c'est un questionnement assez général, malgré tout, on peut le voir, alors c'est un livre qui a été écrit après, chez Steven Zweig, le monde d'avant, où c'est toute cette génération qui a vécu finalement entre 1815 et 1914, qui a connu en gros un siècle de paix européenne et qui s'imaginait que ça allait continuer comme ça. Et tout d'un coup, patatras, il y a la guerre qui leur tombe sur la gueule. Mmh. Et ils se disent, on a échoué, c'est foutu et ça va faire qu'empirer. Mmh. Et je pense que Russell, qui est né en 1870, participe de cette culture finalement d'une Europe en paix, d'une Europe en progrès, avec la raison, la science et tout ultime. Et puis la guerre de 14 arrive et il voit ça comme une gigantesque catastrophe.
Mais en même temps, il ne s'apitoie pas uniquement sur son sort, parce qu'il y a des textes où il est très précis sur, par exemple, les clauses de la paix à venir. Il ne faut pas que ce soit une paix humiliante, donc il anticipe déjà d'une certaine manière Versailles et puis les conséquences que l'on va traiter de Versailles.
Il y a un texte génial là-dessus, donc, j'en parlerai un peu après, mais où il s'oppose à Wells, l'auteur de science-fiction, où il dit justement qu'il est pour une... Et ça, dès le début, dès 14, il est pour une des conditions de... Comment dire un traité de paix.
Qui soit pas humiliant.
Qui soit pas du tout humiliant et qui n'entraîne aucune rancœur et aucune envie de vengeance. Et il prend en exemple, justement, la guerre franco-prussienne de 1870. Où il dit, ben voilà, c'est en humiliant l'ennemi, on prépare la prochaine guerre. Mmh. Et il y a un texte hallucinant où il dit... il répond à Wells, en gros, prophétie pour prophétie... La mienne n'est pas plus valable que la vôtre, mais elle est pas pire. Et en fait, il prophétise les années 30. Et c'est un texte de 14. Enfin, 14-15. C'est assez grandiose. Et donc bon, je reviens à 18, où il est emprisonné. Alors, il y avait différents types de prisons. À ce moment-là, il ne voulait plus y aller parce qu'il pensait que les pacifistes étaient trop isolés, que ça n'avait plus d'intérêt politique d'y aller. Et il commençait à craindre pour sa santé mentale, enfin pour sa santé mentale et physique. Alors, ce qu'il craignait beaucoup, c'était qu'il avait déjà vu des militants y passer et en sortir détruits. Il craignait beaucoup, il perd toutes ses capacités en fait, parce qu'on les mettait dans des conditions extrêmement dures, où ils attrapaient des maladies et où ils sortaient démolis. Et ben, comme il était, il y est échappé parce que ben, vu le milieu auquel il appartenait, il avait des amis influents qui ont tout fait pour qu'il se retrouve en prison dans des conditions presque confortables. Et en fait, en prison, ben, qu'est-ce qu'il a fait ? Il bossait. Voilà, il lisait, il écrivait et puis il rencontrait des amis. Donc il y est resté 6 mois. Donc bon, il a fait de la tôle pour ça, un moment où ça servait plus à rien, mais il en a pas trop souffert. Voilà ce qu'on pourrait dire de Russell, donc entre 14 et 18. Sans que c'est un parcours intéressant. Jean-Mathias, tu veux rajouter quelque chose ou
non,
on fait une pause musicale
Ouais, non, juste avant la pause, indiquer que, en fait, comme tu l'as dit, hein, mais on va en parler de manière un peu plus précise après, mais c'est pas un pacifisme moral, c'est pas un pacifisme religieux, c'est pas un non-violent non plus, Russell. C'est pas, alors, il déteste la violence, tu l'as dit, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est de voir après l'évolution qui va être la sienne, c'est-à-dire qu'effectivement, il va se positionner de manière de plus en plus critique par rapport à l'Union soviétique, quand il comprend effectivement que c'est pas. C'est pas la réalisation du socialisme tel que lui la conçoit et puis tel qu'il pense que ça doit être conçu. Et c'est quelqu'un qui par contre ne sera pas hostile à l'entrée en guerre des États-Unis pour la Seconde Guerre mondiale. C'est quelqu'un qui va.
Mais ça, j'en parlerai après ça.
Voilà. Donc c'est pas pour ce contexte. On a quelqu'un qui se forge pendant la Première Guerre mondiale en théorie et en pratique. Ça, tu viens de le dire. Et puis, qui d'une certaine manière, dans ces circonstances-là, va être obligé et amené, voilà, pour tout un tas de raisons, à clarifier ses positions politiques, et ce qui va donner des choses très intéressantes, dont on va parler après la pause musicale.
Ah!
Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité de la Fédération anarchiste. Et ce soir, c'est Jeudi Noir, comme tous les deuxième et quatrième jeudis du mois. On parle ce soir d'un livre qui est édité aux éditions Agone de Bertrand Russell qui s'appelle « Le pacifisme et la révolution ». Et vous venez d'entendre « Le bal des canailles » de Parabellum. Le titre précédent de Parabellum était « Osmos 99 ». Je rappelle qu'on est un peu sur... ce soir, vous n'entendrez que du Parabellum en hommage à Schultz qui nous a quittés il y a quelques temps. Donc voilà pour ce qui en est de la bande musicale. Alors, le pacifisme et la révolution. Donc Michel, tu nous as expliqué comment l'engagement de Russell et puis sa réflexion politique était pas du tout quelque chose hors sol ou abstrait, mais était lié à un engagement assez radical, il faut le dire, pendant toute la durée de la Seconde Guerre mondiale. Alors, tu nous as dit aussi comment justement, à partir de, sur cette question de l'objection de conscience, puis ensuite le positionnement par rapport à la révolution russe de 1917, et puis le chauvinisme et la propagande un peu triomphante en Angleterre, avait amené Russell à formuler des positions politiques assez radicales, qui l'éloignaient, c'est ce qu'on disait au départ, de son milieu social d'origine, qui est un milieu extrêmement aristocratique, dans la tradition libérale britannique, et comment, du coup, tout en restant fidèle, tu vas nous expliquer ça, aux idéaux finalement libéraux, Russell en vient à cette conclusion apparemment surprenante que finalement, si on veut défendre les idéaux libéraux aujourd'hui, eh bien, il faut adopter une forme de socialisme assez radical qui limite au maximum le rôle de l'État.
Et de la propriété privée.
Dans la mesure où l'État et la propriété privée représentent, d'après Russell, les deux principales menaces sur la liberté individuelle qu'en bon libéral, il souhaite défendre de manière conséquente. Alors, comment ça se passe, cette histoire ?
T'as presque tout dit, maintenant, qu'est-ce que je vais dire, moi ? Bon, voyons voir. Alors, les types qui ont un sens pour la synthèse, comme ça, ils sont insupportables. Donc, mon cher Jean-Mathias, alors... Déjà, au début, je voulais préciser un petit peu le pacifisme de Russell. Range-moi ce portable. Désolé, un réflexe. Alors, au sujet du
pacifisme... Je t'écoute.
C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'ils disent tous. Alors, déjà, le pacifisme de Russell est un peu particulier parce que c'est un pacifisme fondé sur, ce que de manière un petit peu technico-technicienne, on va appeler le conséquentialisme moral. C'est-à-dire que pour Russell, je précise un peu, la valeur morale d'un acte dépend de ses conséquences et non pas d'un principe préalable qui serait posé en absolu.
Donc on n'a pas de principe ?
Non. C'est-à-dire que pour savoir si un acte est juste, on voit si ses conséquences sont bonnes.
Et oui, mais comment on sait ?
À des tas de niveaux, on peut savoir, je pense, quand même, malgré tout. C'est-à-dire que... Éventuellement, je ne sais pas, si tu prends la guerre de 14, par exemple, qu'est-ce qui se serait passé si elle n'avait pas eu lieu ? Et si tu compares ça, par exemple, à la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'est-ce qui se serait passé si on avait laissé les nazis faire ? Bon, alors là, on est dans l'histoire purement hypothétique, donc c'est compliqué d'en tirer la moindre conclusion un peu valide, mais malgré tout, intuitivement, on peut se dire que... sans la guerre de 14, il n'y aurait pas eu grand-chose de mis en péril. Bon, avec Hitler, par contre, il y aurait peut-être eu plus de choses mises en péril. D'ailleurs, on a pu le voir.
Mais ça vaut pour les décisions à l'échelle individuelle aussi, ça ?
Oui.
Pour toutes les décisions, en fait.
Oui.
Ça marche comme ça,
d'accord ? Ça marche comme ça. C'est d'accord. Ça, le conséquentialisme moral. Alors, à partir de là, justement, ça fait que Russell, comme on l'a déjà souligné, ne va pas s'opposer par principe à la violence. Même si, comme je l'ai déjà dit, il l'a en horreur parce que, comme il dit, avec la violence, en fait, on sait jamais, on sait quand ça commence, on sait pas quand ça s'arrête. Et en plus, l'exercice de la violence peut avoir un effet moral dévastateur sur ceux qui l'exercent. Sans parler de ceux sur qui elle est exercée.
C'est parce que ça fait de nous des barbares, en fait, d'être violent, c'est ça.
C'est ça. C'est-à-dire que, à partir du moment où on est violent pour atteindre un but noble, on n'est pas du tout sûr d'être en mesure de réaliser ce but noble une fois qu'on a exercé la violence pour l'atteindre.
Parce qu'on n'est plus très noble nous-mêmes.
Et qu'on a pris des habitudes de cruauté, de domination et autres qui rendent la fin évanescente. Et donc, de ce point de vue-là, il y aura le cas de la révolution russe, où Russell dit clairement qu'il préférait que ça se fasse sans violence, et qu'il espère qu'en Angleterre, les conditions sociales et politiques sont réunies pour qu'une révolution s'opère sans violence, mais que dans le même temps, bah, si la violence était nécessaire dans le cas de la Russie, bah, c'est comme ça.
Une formule Rosa, c'est une formule de Rosa, oui. Ça, dans l'avant-propos, que je trouve assez, assez juste là-dessus. Il dit, oui. Russell, finalement, défend une forme de pacifisme qui combine l'apologie de la non-violence avec le non-refus de la violence, si la situation l'exige. Alors bon, c'est un peu rhétorique, mais c'est un peu ça l'idée. Hein.
Tout à fait. Ouais. Donc, c'est pour ça aussi que, d'ailleurs, Russell ne sera pas pacifiste pendant la Seconde Guerre mondiale.
Tout à fait.
Ce qui est assez cohérent, enfin, moi ça me semble pas aberrant. Même si dans toute guerre, il voit un risque de régression morale, politique, économique énorme. Bon.
Donc c'est cohérent parce qu'il n'est pas pacifiste par principe.
Voilà, tout à fait. Parce que bon, évidemment, s'il était pacifiste par principe, il ne pourrait pas du tout promettre ce type de position. Ensuite, autre chose, c'est que le pacifisme de Russell se caractérise, mais comme le souligne Rosa dans sa préface, par son rationalisme. C'est-à-dire que dès le départ, Russell va être déjà extrêmement étonné, et après il va chercher à l'expliquer, par les passions engendrées par la déclaration de guerre. Et aussi par la croyance aveugle dans la propagande du gouvernement. Et donc, dans chaque cas, il va essayer de s'informer sur les faits. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce qu'il y a eu une provocation allemande? Est-ce que la diplomatie britannique n'a pas elle-même été, comment dire, tellement ambiguë qu'elle a favorisé la guerre? Est-ce qu'il y a vraiment eu des atrocités? Est-ce qu'on a coupé les mains des Belges? Enfin, est-ce que les soldats allemands ont coupé les mains des Belges partout où ils sont passés? Et à chaque fois, il va chercher des faits.
Et ça on le donne comme ça sur un ton banal, mmh. comme ça, mais si, à la lecture des textes, c'est une attitude intellectuelle qui est quand même assez impressionnante, parce que on mesure pas à quel, enfin, y compris en temps de paix,
oui.
hein,
très
mais à quel point
mesurer.
C'est difficile effectivement. La règle de Russell, c'est de ne croire que ce qui est justifié par des faits. Voilà. Et donc c'est effectivement une règle qui se donne et qui paraît simple comme ça, mais qui, mise en application, effectivement, peut avoir des conséquences assez radicales, hein, sur le jugement qu'on porte sur les situations, parce qu'effectivement la plupart d'entre nous, alors en temps de guerre a fortiori bien sûr, mais sommes plutôt sensibles aux témoignages, aux arguments d'autorité, voilà, plus ou moins légitimes qui se prêtent à nous. Russell n'est pas du tout là-dedans, hein, et c'est quelqu'un qui a vraiment une espèce d'intégrité intellectuelle de ce point de vue-là qui est assez fascinante.
Hein. Oui, fascinante, parce que j'imagine qu'ils étaient noyés sous la propagande, vu comme on voit le nombre de mecs qui avaient déclaré qui pactiseraient avec le prolétariat allemand si la guerre était déclarée et qu'ils sont partis à la guerre pour tuer les Allemands, la propagande devait quand même être
efficace
et d'une efficacité redoutable. Donc lui avec d'autres y résiste. Bon, mais c'est un des seuls philosophes à l'avoir fait, comme on l'a dit. Et donc il va aussi discuter les raisonnements, par exemple celui de Wells, l'auteur de science-fiction, l'auteur de La Guerre des Mondes, qui avait écrit un article disant que cette guerre mettrait fin à toutes les guerres. Et donc Russell démontre l'absurdité de ce raisonnement. On met pas fin à la guerre avec la guerre, puisque la guerre engendre la rancune, la vengeance, etc., et pourra produire une guerre encore pire. Et là-dessus, ben, c'est Russell qui avait raison. Pour le coup, l'histoire l'a montré. Puisque très tôt, il montre à quel point l'humiliation de l'Allemagne pourrait déboucher sur une autre guerre encore plus sanglante plus tard, ce qui s'est produit en partie. Enfin, c'est une partie des raisons. Et il s'oppose aussi à tous les intellectuels qui mettent leurs compétences au service de la guerre, comme Bergson.
Et alors, ce que tu disais tout à l'heure, ça me paraît important. Tu dis, on voit en quoi, effectivement, il adopte une position rationaliste. C'est-à-dire, voilà, les faits et les conclusions à partir des faits et rien d'autre. Et c'est en même temps, tu l'as dit aussi, la propagande le pousse à ça, mais les attitudes des autres intellectuels aussi. Il est aussi constamment à s'interroger sur, finalement, les limites aussi du raisonnement et de nos conclusions intentionnelles. C'est-à-dire que très vite, en fait, il déplace aussi la question, où il s'interroge sur le rôle des pulsions et des passions, hein, telles qu'elles se déchaînent dans une situation de conflit comme ça. Il est en débat avec T.H. Lawrence, là, qui est un romancier britannique, qui lui est sur des positions plus vitalistes, irrationalistes, etc. Mais ça, c'est un point important. Peut-être que tu peux nous en dire deux mots aussi sur l'importance que joue, du coup, notamment cette espèce de couple de pulsions très rationnelles, en fait, hein, chez nous, entre ce qu'il appelle les pulsions possessives et les pulsions créatrices. Parce que c'est un truc très important après, sur la manière dont il pense, justement, l'organisation politique et l'organisation sociale. social.
Oui, tout à fait. Oui, puisque pour Russell, donc, il va partir alors, d'un psychologue anglais dont j'ai totalement oublié le nom, mais qui était célèbre à l'époque et reconnu, bon, peu importe. Effectivement, il va distinguer ces deux types de pulsions, les possessives et les créatrices. Et les possessives se caractérisent, alors ça c'est très très classique en même temps, on n'a pas besoin d'aller chercher chez un psychologue anglais récent, on trouve déjà ça chez Spinoza un peu plus tôt, sur les biens finalement qu'on peut acquérir pour soi seul et qu'on ne peut pas partager. Et donc avec
qui sont conflictuels,
qui sont source de conflits puisque voilà. On est en concurrence pour les obtenir, et les biens qui au contraire une fois produits finalement sont immédiatement partageables et ne retirent rien à personne, et qui sont souvent des biens intellectuels, spirituels, artistiques et autres. Et ce qui veut dire c'est que tous les individus sont finalement partagés entre ces deux pulsions, créatrice et possessive. Et que la question politique...
Voilà, du fait de l'organisation sociale dans laquelle il se trouve.
Oui, et du fait et que l'organisation politique va prendre une importance démesurée à ce moment-là, parce qu'elle peut encourager l'une ou l'autre de ses pulsions. Et ce qu'il dit, c'est que le capitalisme et l'État tels qu'ils sont institués...
comme gardien de la propriété privée.
Comme gardien de la propriété, l'État comme gardien de la propriété privée, tout à fait, finalement favorise uniquement les pulsions possessives. Et ont tendance à, justement, en privant les gens de responsabilité politique, en les privant du minimum de propriété nécessaire à leur subsistance, etc., finalement, on réduit les gens à l'impuissance et on contraint tout le monde, y compris les pauvres, à quoi ? Bah, désirer être riche ou le rester. Et, pour lui, c'est une atteinte fondamentale à la liberté individuelle.
Qui ne peut donc se réaliser que dans une société organisée sur des principes socialistes, oui, assez radicaux.
Oui.
Et sachant que la finalité, du coup, effectivement, du socialisme pour Russell, c'est d'arriver par la défense de la liberté individuelle, et une défense qui est assez radicale et inconditionnelle, si j'ai bien compris, hein, à encourager et à développer chez chaque individu. Et c'est en ça, effectivement, qu'il est très proche de ce point de vue-là des analyses libertaires, on va dire. Hein. Développer ces pulsions créatrices que tu mentionnais à l'instant. Mmh. Effectivement, le but et la finalité du socialisme tel que Russell l'entend, qui est un socialisme libertaire, libertarien, ouais, quelque chose de cet ordre-là, c'est effectivement d'arriver, hein, si j'ai bien compris, à encourager en chaque individu le développement de ces pulsions créatrices, et aussi bien individuellement que collectivement.
Mais en fait, il est pour supprimer complètement le droit à la propriété ou le limiter ?
Le limiter.
Ouais. Le limiter de manière à ce que, en tout cas...
Parce que chacun ait les moyens de subsistance, les moyens...
Et les moyens de développer sa créativité, ouais, d'une certaine, oui, manière, hein, et de cultiver ses pulsions créatrices.
Un genre de droit de propriété minimum, en fait.
Quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Alors après, est-ce que c'est pas un théoricien de la propriété, non, hein, Russell ? Pas. Mais ce qui l'intéresse, lui, c'est d'essayer de relier effectivement l'organisation sociale à cette analyse à la fois morale de l'individu et politique, hein, voilà, de la liberté individuelle. Donc alors il y a des formules effectivement de socialisme libertarien, ça c'est une proposition.
Socialisme de l'individu, voilà. Bon, il y en a plusieurs. Ce sera le mot de la fin parce qu'on va laisser la parole à nos camarades d'Entre Chiens et Loups. Voilà, donc c'était une présentation d'un recueil d'articles de Bertrand Russell, Le pacifisme et la révolution.
Un excellent
recueil, donc édité chez Agone dans la collection Bande d'essais. Et c'est un morceau, on va finir sur un morceau de Parabellum. Et sinon, vous pourrez retrouver cette émission très prochainement sur le site, vous tapez Gurdulu, Jeudi Noir, et vous tombez dessus. Voilà, à dans deux semaines.
étrangers, les forfaits de ma paix. Je laisse d'aujourd'hui, ne faites plus le con, car pour une simple connerie, on vous jette en prison. Mort aux vaches, aux tombées, vive les enfants taillés, la main sous la sûreté. Si je viens à mourir, je veux que l'on m'enterre dans un tout petit cimetière, à la rue Saint-Martin, 400 putains à poing, car mon cri est très haut, terre-moi les gilets bleus au même temps. Mort aux vaches, aux bondés, les enfants caillent la main sous la sûreté.